fan absolue du Docteur Who, je ne suis pas anglaise, je suis française. Et je le suis depuis longtemps. Il y a des Docteur Who qui m'ont plu, d'autres moins. Mais je trouve toujours matière à rêver. Sauf que tout à l'heure, vous avez dit que c'était une cabine téléphonique. Or, c'est un appel de police. Elle est bleue et non pas rouge. Honte à vous tous, les spécialistes. Je suis colère de chez colère. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Sigrist. Belle émission.
Bonjour, c'était pour vous dire que moi, les jeux vidéo, je me suis arrêté en 1995. Et depuis, mes ados jouent aux jeux vidéo. Et ils écoutent aussi Blockbuster. Et ça nous a permis d'avoir des belles discussions le soir en mangeant. Voilà, merci pour tout. À l'année prochaine, j'espère.
Oui, salut Blockbuster, c'est Marcus. C'était pour remercier toute l'équipe de cette super émission. J'ai passé un très bon mois de juillet grâce à vous et j'espère arriver à récupérer les podcasts de l'an dernier pour passer un bon mois d'août aussi. Merci et puis sinon à l'année prochaine peut-être.
Les séries et les jeux vidéo, moi ça m'intéresse pas. Néanmoins, à force d'écouter votre émission, j'ai découvert un univers passionnant, des invités passionnés et érudits. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Bonnes vacances. Rendez-vous avec Frédéric chez Nagui en septembre.
To be or not to be, not to be.
Déjà, eh oui, Blockbuster saison 2, c'est déjà fini. J'ai donc plein de gens à remercier. A tout d'abord, merci à ma superbe équipe. Céline Hila, la réalisatrice qui, dès l'aube, vient retravailler les tonnes d'extraits qu'on lui a trouvés, s'arrachant les cheveux quand je ne rends pas l'antenne à l'heure, pleurant toutes les larmes de son corps en me voyant faire des signes qui ne correspondent à rien, à la régie. Oui, parce que vous ne le saviez peut-être pas, chers auditeurs, mais pour envoyer des sons ou des chansons, il faut faire des grands gestes à la régie. Technique radiophonique que je maîtrise tellement bien que quand on me regarde animer Blockbuster, on a l'impression que je tente de faire atterrir un avion dans le studio. Donc big up à Céline pour avoir supporté ce manque de rigueur. Ne t'inquiète pas, la direction est consciente de ce que tu as vécu. Deux étés avec moi, logiquement, ça donne droit à un CDI chez Fabrice Drouel. Ensuite, j'aimerais remercier Marie Mougin, Chloé Brassière et Prudence Castelot qui ont cherché pendant des heures des sons, des articles, des invités, les badges que j'ai perdus 6 fois. Mais pas que, elles ont aussi cherché la force de supporter mes blagues dans un bureau pas suffisamment grand pour qu'elles ne les entendent pas. Merci à la technique de Radio France, aujourd'hui aux manettes Raphaël Rousseau et Rémi Sistiaga, à la documentation de Lina, à la programmation musicale Thierry Dupin et Elsa Béranger. Mais surtout, merci à vous, les auditeurs qui avez fait vivre cette émission sur les réseaux sociaux, les podcasts ou sur Facebook. Merci pour vos messages, vos suggestions. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point ça nous a touchés. J'ignore si cette émission reviendra sur cette antenne, ça m'appartient pas, mais ça a été une fois de plus un honneur et un plaisir de vous la proposer. Je dois vous avouer que lorsque l'artiste dont on va parler aujourd'hui a disparu, j'ai pleuré. Et ce matin, pour cette dernière émission, je voulais un peu le ramener avec nous, car ce matin, on va parler de mon chanteur préféré, on a gardé le meilleur pour la fin, David Bowie.
France Inter. Blockbuster.
Jusqu'ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Mes préoccupations, quand j'étais plus jeune, étaient d'installer un univers parallèle à travers l'écriture, qui soit détaché du monde réel. J'écrivais plutôt des histoires fantasques quand j'étais jeune. En vieillissant, j'ai compris qu'à travers ces fantasmes, je me posais les mêmes questions qu'aujourd'hui, mais elles étaient masquées. Je ne réalisais pas que je me posais des questions. Pour moi, je ne faisais qu'écrire des fictions. Mais tout auteur écrit sur lui-même. Tout part du sentiment d'isolement. Il y a un certain nombre de sensations liées à l'abandon spirituel. Et puis plus je vieillis, plus cet aspect apparaît au grand jour. Je suis prêt à m'attaquer à cette idée qu'il y a quelque chose qui nous a créés, s'il y a, bien sûr, un créateur. C'est une réflexion simpliste, mais tellement profonde. Et je réalise que j'écris sur ce sujet depuis toujours, j'écris là-dessus.
Blow
David Jones, Ziggy Stardust, David Bowie. Derrière tous ces noms, un même artiste de génie qui n'a eu de cesse de se réinventer sur scène et dans la vie au fil des ans. Tellement protéiforme qu'on aurait pu le penser immortel. Passant tel une comète à travers les modes musicales, David Bowie a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la musique. On ne compte plus les artistes qui doivent quelque chose à Bowie. Et pour retracer l'itinéraire de cet artiste sans pareil, je suis entouré par Violaine Schütz. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste musicale pour Tsugi, Combini, Elle, Le Parisien, Mag, pour beaucoup de journaux.
Oui, pour d'autres aussi, oui. C'est la crise, il faut travailler.
C'est la crise, mais c'est très très... Je comprends. À nos côtés également, Arnaud Ducom, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes journaliste musical pour Gonzai, Technic Art et Noise.
Exactement, New Noise, ouais.
New Noise. Alors, et Mathieu Thibault.
Bonjour.
Auteur du livre David Bowie, l'avant-garde pop. Et avec nous également, un habitué pour cette dernière, Jean-Baptiste Toussaint, voilà, de la chaîne Tales from Brooklyn. Bonjour.
Salut Frédéric.
Alors ensemble, on va retracer le parcours de David Bowie, de ses débuts à la création de ses avatars scéniques. On évoquera ses influences et son influence à lui. Mais surtout pour cette dernière, on va se faire plaisir en l'écoutant Louis.
God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed the man,
Alors, Jean-Baptiste Toussaint, pouvez-vous nous expliquer qui est David Bowie ?
Alors, David Jones, son vrai nom, né le 8 janvier 1947 à Brixton, dans le sud de Londres. Et si certains se demandent d'où il tient cette singulière force créative qui a symbolisé sa carrière, sachez qu'il existe dans son enfance quelques éléments de réponse. Sa mère tenait un théâtre, une discothèque, sa belle-mère chantait dans un nightclub et son demi-frère, féru de musique, l'initie très jeune au jazz. À 12 ans, il se met au saxo, à 15 ans, il joue dans son premier petit groupe, The Conrad, et décide quelques années plus tard de changer de nom. Il existe déjà un David Jones dans le groupe The Monkees, alors il opte pour Bowie en hommage à un héros de la conquête de l'Ouest, James Bowie. La gloire arrivera en 1969 avec son fameux titre Space Oddity qui deviendra quelques jours après sa sortie le générique d'une émission de la BBC narrant les exploits d'Apollo 11 et de Neil Armstrong. Et tout ça, ça ne représente que 1% de la vie de Bowie.
Alors on a évoqué ses parents. Arnaud Ducom, on sait que Bowie a eu une enfance dans un milieu assez compliqué.
Une enfance dans un milieu compliqué, mais il a son frère. C'est ça, le premier vrai héros de David Bowie, c'est Terry. Ils ont 10 ans d'écart et Terry l'initie à la littérature. Il le fait découvrir les auteurs de la Beat Generation, Burroughs, Ginsberg. Il le fait sortir, il lui fait découvrir les lives, le concert, la vie londonienne. Il est extrêmement important pour lui. Mais le problème de Terry, c'est que c'est un jeune homme malade, un jeune homme schizophrène. Et tout ça va aussi avoir une influence extrême sur David, qui va... Ça va déjà tout d'abord questionner sa propre santé mentale et ça va être une source d'influence extrême pour lui. On retrouve d'ailleurs beaucoup de morceaux qui rendent hommage à son frère, que ce soit Beaulieu Brothers sur Hunky Dory, que ce soit Ashes to Ashes sur Scary Monster, All the Mad Men. C'est vraiment déjà quelque chose de très important dans sa formation, c'est son frère.
Mathieu Thibault.
Oui, ce qui est intéressant en plus avec l'influence de Terry, c'est que outre l'influence humaine, on a aussi une influence musicale. Vous en avez parlé avec le jazz et notamment le free jazz. C'est lui qui lui fait découvrir Rick Dolphy et John Coltrane, l'époque où Coltrane est free. Et ça, un, chez un jeune Bowie qui découvre par ailleurs Little Richard, Elvis Presley, puis les Beatles, ça va mélanger très vite un caractère pop avec des chansons accessibles, divertissantes, adolescentes, et en même temps une volonté d'expérimentation qu'on a dans le free jazz. Et ça va pas le quitter de ses débuts dans Space Oddity, qui est certes un tube, mais qui a une structure alambiquée, presque rock progressif, jusqu'à Black Star à sa mort, qui est dont la chanson titre est une chanson de 9 minutes avec une structure en arche. Donc on a quelque chose d'expérimental dès le début qui vient de son demi-frère aussi.
Et d'ailleurs, tu disais qu'il lui rendait hommage, vous précisez que
Jean-Baptiste Toussaint,
ouais, son demi-frère s'est suicidé et ça aussi, ça l'a beaucoup.
Ouais, oui, il se suicide, c'est horrible. Il se suicide en 85, il s'allonge sur les rails et voilà, c'est quelque chose qui l'a énormément marqué, c'est vrai.
Violaine Schütz.
Il y a aussi dans sa famille, en fait, des tantes du côté de sa mère, puisque Terry était le fils de sa mère, donc demi-frère, j'aime pas couper les gens, mais. Et du coup, en fait. Il avait des tantes, en fait, folles. Des tantes schizophrènes, dont une qui a subi une lobotomie. Donc en fait, le gène de la folie, il a vraiment eu peur de l'attraper, entre guillemets, et c'est pour ça qu'il veut organiser cette espèce de schizophrénie, si on fait une petite analyse en deux secondes un peu psychanalytique. C'est peut-être pour ça qu'il a organisé après avec tous ses personnages cette schizophrénie, parce que pour pas la subir, et ça va le hanter toute sa vie, musicalement, et aussi dans les looks qu'il va créer.
Et alors on parlait du jazz avec Mathieu Thibault, le père de Davy Jones était lui-même amateur de jazz.
Oui, mais pour le coup, plutôt de ce qu'on appellerait du jazz à papa, oui. C'est-à-dire du jazz avec un thème, un chorus, un thème. Et justement, le fait de trouver chez Terry une sorte d'échappatoire à ce jazz plus conventionnel avec un free jazz, et je rappelle que le free jazz, à l'époque, on a certes un thème vaguement écrit au début et en fin de pièce, mais entre, on a de l'improvisation totalement libre et collective. Et donc, il y a l'idée de groupe dans le free jazz qu'on a peut-être moins dans le jazz conventionnel qui va marquer Bowie, et l'idée de liberté qui va retrouver par ensuite dans un rock plus expérimental, l'art rock du Velvet Underground et de Frank Zappa par exemple.
Alors on va maintenant écouter l'un des plus grands chefs-d'œuvre de David Bowie, un morceau stellaire sorti en 1969, Space Oddity.
J'ai beaucoup de mal à imaginer une journée sans jouer ou écrire des notes. Ça fait tellement partie de ma vie. Ce n'est pas artificiel pour moi. Je sens arriver le moment où je ne serai plus capable de chanter juste, où je serai contraint de pousser la note trop haut. Là, je commencerai à rechercher des chanteurs. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. We'll be right back.
C'était le chef-d'œuvre Space Oddity de David Bowie dans Blockbuster sur France Inter.
Bien pour moi, il s'agissait tout simplement de tomber automatiquement dans des zones que je n'avais pas encore expérimentées. Des zones quasiment taboues pour la majorité de la société de cette époque. J'ai trouvé le monde gay très attirant. Tout le monde avait l'air génial. Il y avait un sens de la fête parce que quasiment c'était encore un monde caché, clandestin, une communauté qui n'avait pas encore fait son coming out. Et il y avait un sentiment d'excitation, un titillement à pénétrer des zones qui étaient interdites au reste de la société. Et comme tout jeune, j'étais vraiment enclin à expérimenter sur le plan sexuel et sur le plan philosophique. J'étais bouddhiste le mardi et nietzschéen le vendredi. Et je pense que le reste de ma vie a été comme ça.
Arnaud Ducom, est-ce que les premiers albums ont été des succès immédiats ?
Ah non, absolument pas. Son tout premier 33 tours sorti le 1er juin 67, qui s'appelle très sobrement David Bowie, a été un flop total en fait. Le problème c'est qu'en face sort le Sgt Pepper's des Beatles.
Qui ?
Le Sgt Pepper's, pardonne-moi pour mon anglais à couper au couteau.
Non, c'est le groupe que je connaissais pas.
Les Beatles, ça te dit quelque chose ?
Non, ça n'a pas marché.
Vaguement. Et donc du coup, non, c'est un échec. C'est un échec complet.
Ah oui, totalement.
Ah oui, complet.
Ce qui explique du coup qu'il va pas faire d'album l'année suivante en 68, qu'il va un petit peu réfléchir à son image et qu'il va opérer en fait sa première transformation. Il va cesser de pousser les cheveux, prendre des vêtements d'un style bohème et intégrer complètement la culture folk, hippie, progressive qui naît à ce moment-là. On est dans les années post-psychédéliques, donc il y a le début de King Crimson et en même temps un retour aux racines folk et blues. Donc il mélange un petit peu tout ça et il va surfer sur les modes quelques années. Space Oddity, c'est donc folk progressif. Ensuite, il y a l'album The Man Who Sold the World qui surfe un petit peu sur le hard rock. Et puis ensuite, seulement, il trouvera vraiment sa voix pop 70s avec Unky Dory. Mais du coup, il y a ces années de flottement. Ça veut pas dire que c'est de la mauvaise musique, hein, pas du tout. Mais c'est qu'on a un Bowie qui est pas complètement lui-même. Et c'est là tout le paradoxe chez Bowie, c'est que même quand il sera lui-même, ça sera finalement une cristallisation de toutes ses influences. Donc ça sera jamais finalement que lui.
Et alors, ce dont on n'a pas parlé, c'est l'aspect travailleur de Bowie. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'artistes auraient pu lâcher l'affaire après un échec, se dire « bon, bah, c'est pas pour moi ». Mais en fait, Bowie, dès le début, a vraiment travaillé sur son look, sa voix, ses compositions pour devenir ce qu'on a connu de lui. Mathieu.
On le voit d'ailleurs ça dans l'exposition qui a eu lieu à Paris en 2015, David Bowie Is. C'est-à-dire qu'il y a des dessins de groupes avant même que les groupes aient répété. C'est-à-dire que il y a des dessins de costumes dès 65, des plans de stratégie commerciale, alors que en fait le Bowie ne fait pas encore vraiment partie d'un groupe. Et donc il y a cette idée très tôt en fait, il le dit clairement, il veut devenir une rockstar, enfin une superstar pop. Et donc il y a cette construction de soi qui est un concept qu'on doit aussi à Oscar Wilde, qu'il a lu, qu'il a découvert grâce à son manager de l'époque, Kenneth Pete. Donc il y a vraiment une construction de soi dans cette idée de dandy qui va être artiste et en même temps star en qui les adolescents peuvent s'identifier.
Alors David Bowie est une référence musicale mondiale, mais à l'époque des vocodeurs et des chanteurs vainqueurs de télécrochets, est-il toujours aussi pertinent ? Chloé Brassière, qui adore poser des questions à des gens trop jeunes pour savoir ce que c'est qu'un Minitel, est allée leur demander pour eux qui était Bowie.
Je sais très bien que c'est une légende, quoi, mais c'est pas du tout le style de musique que j'écoute. Je préfère Téléphone, Indochine, enfin ce style de musique-là. En fait, j'ai pas une grande passion pour Monsieur Bowie.
C'est un mec qui a dépassé toutes les limites et les frontières, qui a fait des chansons géniales. Ma préférée, c'est Rock'n'Roll Suicide.
Space Oddity, sa collab avec Freddie Mercury, Under Pressure.
J'ai aucun de ces titres qui me vient en tête, c'est horrible.
Blue Jean, Modern Love, Life on Mars,
Ziggy Stardust. Je sais pas, c'est genre l'un des premiers artistes qui m'a vraiment marqué dans ma vie. Et ouais, David Bowie, pour moi, c'est genre vraiment un précurseur et il était vachement en avance sur son temps.
Je sais que c'est quand même certaines figures qui pèsent dans le game, mais pas dans le mien.
Moi, j'aime toutes les musiques qui font bouger. Et je sais que dans mon Spotify, j'ai du David Bowie, donc j'imagine que si je l'ai, c'est qu'une de ses musiques ou plusieurs de ses musiques m'ont plu, donc voilà.
D'habitude, avec un artiste, on dit « ouais, c'est son univers ». Bah là, on peut dire que c'est ses univers, il en a eu plein. Et vraiment, il a créé quelque chose que personne ne peut refaire aujourd'hui, je pense.
Alors, je rappelle que vous pouviez laisser des messages pour cette émission quand elle a été diffusée, mais que ça ne sera plus le cas. Donc, vous pouvez toujours appeler le 01 56 40 30 20 pour parler. Voilà, il y aura peut-être quelqu'un au bout du fil, on ne sait jamais. J'en profite également pour remercier absolument tous les invités de cette émission, les experts qui sont venus tous les jours, en plein mois de juillet, en plein de vacances, parler comme ça de leur domaine d'expertise. Et vraiment, je suis ravi d'avoir des gens passionnés autour de la table, parce que souvent, les gens passionnés sont des gens passionnants. Merci à vous. Je dis merci voilà, à vous aujourd'hui, mais merci à tous les invités de Blockbuster. Alors, j'aimerais qu'on parle de Life on Mars, le grand album de David Bowie.
Alors, l'album, techniquement, c'est Hunky Dory, effectivement, mais le single majeur de cette époque, c'est Life on Mars en 71, qui est majeur à différents points de vue. En fait, la naissance, la jeunesse de la chanson est particulière, parce qu'au départ, Bowie cherche à adapter comme d'habitude de notre Claude François national.
On lui doit tout.
Oui, exactement, même Bowie, c'est incroyable. Finalement, ça sera My Way qui sera retenu pour l'adaptation américaine. Mais Bowie va quand même travailler du coup une sorte de chanson un petit peu dans le style musical cabaret, avec cette descente au piano typique de ce genre de chanson. Il va lui ajouter un côté grandiloquent, enfin grandiose, voire grandiloquent dans l'interprétation, mais justement c'est la première fois qu'on va voir un Bowie qui joue sur plusieurs grilles de lecture. Il y a à la fois quelque chose d'ironique dans la prestation de Bowie, un petit peu trop outré, un petit peu trop précieux, et en même temps c'est une chanson qui émeut au premier degré sincèrement, parce qu'il y a des beaux arpèges de piano, parce qu'il y a une voix touchante. Et c'est à noter aussi que c'est la première fois que Bowie a un clip majeur avec Mick Rock, qui va lui faire énormément de photos par ailleurs. Et c'est la première fois qu'on le voit en fait maquillé avec ses cheveux rouges. Alors le clip viendra un petit peu après la sortie du single, il viendra en 73 dans sa période glam. Mais il est maquillé, il a un costume fait sur mesure et il apparaît vraiment comme un freak, on pourrait dire, mais dans le bon sens du terme.
Alors justement, Violaine Schütz, en parlant de la période glam et de ce monde de la nuit aussi que représente un petit peu David Bowie.
Alors oui, je voulais juste dire que Life on Mars, il y a aussi un message politique, parce qu'en fait, il regarde un peu la Terre, il donne une image des États-Unis, de la Terre, de l'Angleterre, il y a une image politique aussi sur ce que c'est l'Angleterre, il envoie un peu des nouvelles de la Terre. Donc à cette période-là, il faut quand même savoir que l'homosexualité en Grande-Bretagne, elle est dépénalisée, si je dis pas de bêtises, en 67, et 67 c'est le premier album de Bowie, là on est en 69, quand il pose sur la pochette de The Man Who Sold the World, une idée de sa femme, de sa fiancée de l'époque, Angie, apprenti mannequin, apprenti un peu qui veut être actrice, tout ça, qui l'encourage à faire ça, on est, quand il pose en 70 sur cet album, en robe, allongée, ça fait un peu scandale, c'est 3 ans après que l'homosexualité a été dépénalisée. Et la première apparition de Bowie en 64 à la télévision, il est là avec les cheveux longs, donc on est avant la dépénalisation, en train de défendre les hommes aux cheveux longs et qu'on l'insulte dans la rue, et c'est, il est président et unique membre de l'association, je crois, de la cruauté envers les hommes aux cheveux longs.
Exactement. Donc, en fait, auquel je n'ai jamais pu adhérer.
Donc en fait, c'est très scandaleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un truc très gender fluide, les hommes s'habillent comme des femmes, les femmes s'habillent comme des garçons, les millennials n'ont jamais été autant flexibles sur la sexualité. Mais à l'époque, c'est quand il est en train d'imiter l'acte sexuel avec son guitariste Mick Ronson sur la tournée de Ziggy, on est dans un truc complètement hallucinant, quoi. Complètement hallucinant, quoi. Début du glam rock.
Oui, c'est extrêmement important. C'est vrai que tu parlais de l'album précédent, mais c'est vrai que c'est avec Hunky Dory, là, cette pochette hallucinante, qu'on a vraiment une programmation de l'ambiguïté. La création d'un premier personnage vraiment fort de Bowie, et c'est extrêmement important à l'époque. Les gamins, les kids qui découvrent Bowie se questionnent bien sûr sur son homosexualité. Est-il homo ou pas? Et ça fascine. Il y a vraiment quelque chose. Ça crée des discussions. Ça ouvre un petit peu l'époque. Et ça a une influence énorme, bien sûr, sur toute la communauté LGBT. C'est vraiment énormément de personnes se rappellent de ce moment, de cette découverte de ce personnage androgyne. Et il y a même un hommage de Todd Haynes dans le film Velvet Goldmine, qui est génial, où effectivement on a Brian Slade, qui est un avatar de Bowie, Bowie, un personnage qui n'est que Bowie en fait. Et l'adolescent le regarde à la télé, c'est vraiment son premier émoi. De suite après, il va dans sa chambre, il met le disque à fond, il va se maquiller. Et c'est quelque chose de fou, cette pochette d'Unky Dory pour ça. L'impact que ça a pu avoir sur les esprits et sur la sexualité des gamins de l'époque.
Vous vous rendez compte qu'il y a tous les réactionnaires qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de dire « Ah, donc ça a bien une influence sur la jeunesse !»
Exactement, mais tant mieux qu'ils nous écoutent.
Et alors, comment on... Bon, on a entendu comment ça a été appréhendé, mais on a aussi entendu parler de l'aspect cabaret et théâtralité de Bowie, parce qu'il était vraiment fasciné par, par le mime, par toute cette culture de Kurt Weill, le cabaret de nuit, comme ça, et qu'il a fait rentrer de plein pied dans le monde de la musique.
Oui, alors ça vient d'un amour de jeunesse, de, pareil, de toute façon, mais il y a eu un événement marquant en fait en 67, et en 68 c'est quand il a pris des cours de mime avec Lindsay Kemp, qui va être une sorte de mentor pour lui, et ce Lindsay Kemp, qu'on soupçonne être potentiellement un amant de Bowie à cette époque, rien n'est clair, en tout cas il va l'initier au théâtre, au mime, donc Bowie va faire du mime, et il va essayer tout de suite de réadapter, et ça c'est quelque chose qui est très bowien tout au long de sa carrière, c'est dès qu'il a un nouvel élément, une nouvelle influence, il va essayer de l'adapter et de l'intégrer dans, dans son propre art, dans ses propres œuvres. Et donc à partir du glam rock, c'est majeur. Il va s'inventer des personnages, il va s'inventer des looks. À chaque album, vous avez un look différent. Donc il y a Ziggy qui devient Lady Insane, avec les cheveux un petit peu plus longs et puis plus dénudés, avec l'influence des costumes japonais. On a une musique qui change parce que les influences deviennent plus américaines. Donc on a cette théâtralisation sur les albums, dans les pochettes, dans les clips, mais aussi sur scène. Et Bowie, à cette époque, est un des pionniers rockstar à intégrer des éléments de mime, de d'actes sexuels mimés sur scène, comme la fellation de Mick Ronson pendant un solo de guitare. Alors c'est pas le seul, il y a Peter Gabriel par exemple de Genesis qui à l'époque se maquille aussi et incarne des personnages, mais c'est plus opératique. Il va incarner différents personnages qui dialoguent, alors que chez Bowie c'est vraiment à la fois lui et en même temps une sorte de messie rockstar.
Vous écoutez France Inter, il est 11h33 et c'est l'heure des chiffres. Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. Oh, et là, tout d'un coup, tout le monde
on
est fébrile.
On n'aime pas trop ce moment.
Et, non, mais Jean-Baptiste, lui, il est paré. Hein. Là, j'ai vu, il a révisé. Alors, si je vous donne le chiffre 13, c'est l'âge auquel David Bowie commence à jouer du saxophone, c'est l'âge auquel sa pupille gauche se dilate, ou multiplié par 2 le nombre total d'albums qu'il a composés.
Ah, c'est la première solution.
C'est pas l'œil, non?
Saxophone et l'œil.
L'un et la dernière aussi. Le nombre d'albums, il y en a 26.
Mes fiches me disent 12 ans.
Multiplié par 2.
Eh bien oui, effectivement, et vous avez tous raison. On a été généreux. C'est à la fois l'âge auquel David Bowie a commencé à jouer du saxophone, 13 ans. L'âge auquel sa pupille gauche s'est dilatée, c'est 12-13 ans. Et multiplié par 2, c'est le nombre total d'albums qu'il a composé, 26.
D'ailleurs, c'est suite à une bagarre avec un jeune élève de classe.
Oui.
À propos d'une fille qui s'est pris une droite et ça a dilaté sa pupille.
Oui, il faut dire qu'il avait quand même forcé le dossier, hein, parce qu'en fait, David Bowie avait dit à la jeune fille qu'elle avait donné un rendez-vous à un de ses potes, bah, qu'il ne viendrait pas, et lui, il est venu à sa place. Et le pote l'a appris. Donc, c'est pour ça qu'il lui en a jamais vraiment voulu. Si je vous donne le chiffre 22, c'est le nombre de films dans lesquels il a fait une apparition, l'âge auquel il sort son premier album, ou le nombre de chansons que Bowie a écrit sur l'espace.
La première solution, je dirais, moi.
22, le nombre de films dans lesquels il a fait une apparition. C'est une bonne réponse. Bonne réponse de Mathieu Thibault.
Il va partir avec la cagnotte.
Le banco. Chiffre suivant, le 10, c'est en millions le nombre d'albums de Let's Dance vendus dans le monde. En milliers, le montant minimum prévu pour la vente aux enchères de la première bande démo enregistrée par David Jones. Ou le nombre de personnages qu'il a incarné dans sa carrière musicale.
C'est la 2,
la 2, la bande démo.
C'est la 2, je l'ai lu hier, non, c'est
pas ça. Oh, mais incroyable. Ah non, vraiment, vous êtes brillants. C'est effectivement les deux premières. Donc c'est 10 millions le nombre d'albums de Let's Dance vendus dans le monde. Et en milliers, le montant minimum prévu pour la vente aux enchères de la première bande démo enregistrée par David Jones.
Et qui était retrouvé dans un panier à pain.
Exactement, parce qu'on n'y pense pas assez de gens qu'on met dans un panier à pain. Eh bien, je pense que vous avez tous gagné une chanson. On va faire un petit écart musical cette fois-ci, hein, pour écouter la française Jeanne Haddad chanter New Tate.
Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation, see, can you see how I operate now?
feel the vibration waving through me.
De Jeanne Haddad, elle sort un tout nouvel album Radiate à la rentrée. Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter et aujourd'hui on vous parle de David Bowie.
Well, I do the art and then I try and sell it.
Eh bien, je fais de l'art et ensuite j'essaie de le vendre. C'est aussi simple que ça. Mais quand je travaille sur mes chansons, je suis 100% artiste. Et quand j'essaie de les vendre, croyez-moi, je suis homme d'affaires à 100%.
When I'm trying to sell it, believe me, I'm 100% businessman.
And shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Mathieu Thibault, David Bowie a eu une influence énorme sur beaucoup d'artistes.
Oui, on s'en rend compte avec les deux derniers extraits, puisque The Man Who Sold The World a été reprise par Nirvana pour le MTV Unplugged. Nirvana, c'est un groupe de rock grunge, Et puis juste avant, on a entendu Jana Dead qui, même si musicalement ne cite pas Bowie aussi clairement, a quelque chose dans son look et les sons synthétiques qui est hérité de la période dite berlinoise, c'est-à-dire de la fin des années 70 de Bowie. En fait, avec 50 ans de carrière, Bowie a forcément beaucoup influencé différentes scènes. La période glam a influencé le punk par la simplicité des compositions et le look. La période berlinoise a influencé le post-punk et la new wave avec les sons de batterie futuristes et les synthétiseurs. Et de manière générale, c'est la vision d'un artiste qui ne se repose pas sur ses acquis, qui à chaque nouvel album va s'inventer un nouveau personnage et un nouveau style musical. On a ça chez Prince par exemple, et même chez des gens encore plus populaires comme Madonna, ça vient aussi de Bowie.
Lady Gaga
aussi, même si musicalement ça n'a pas forcément grand chose à voir, mais on a cet esprit de renouvellement. Et musicalement, vous avez des artistes qui attachent peu d'importance au look comme Radiohead ou Blur, mais qui à chaque album ont essayé de se renouveler à la manière de Bowie. Plus récemment, on remarque vraiment une très forte influence chez les femmes de tout style. On parle de Jana Dead, on a aussi Christine and the Queens qui lui doit quelques petites choses en France, et puis en Angleterre, aux États-Unis, vous avez Anna Calvi qui fait du rock tout à fait dans la théâtralité de Bowie, Saint-Vincent qui fait de l'art rock synthétique dans la veine de Bowie, vous avez Janelle Monáe qui est donc afro-américaine, donc dans un style plus funky, qui doit beaucoup à Prince mais à Bowie. Elle cite Ziggy Stardust dans ses 5 albums préférés. Donc vous avez beaucoup, beaucoup d'enfants de Bowie. Donc même si dans les micro-trottoirs, les jeunes ne connaissent pas Bowie, en fait, ils le connaissent par transitivité.
Oui, mais on n'a pas choisi n'importe quel jeune dans les micro-trottoirs. On a vraiment choisi des jeunes. Bref. Et alors, Bowie était un chanteur et compositeur de génie. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, Bowie, hein, Henri Kéker et Yves Ravi du Masque et la Plume, eh bien, ils n'aiment pas.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
Vraiment, moi, je trouve ça magnifique, les résultats de ce type-là. Je suis totalement séduit, non pas par le personnage, mais par l'escroquerie, parfaitement peaufinée en différentes étapes de masque, totalement vide. J'applaudis des deux mains, des deux pieds. Je veux dire, véritablement, que toutes ces hordes tombent en pamoison. J'avoue que j'y comprends rien.
On va voir David Bowie comme on achète une mini-jupe, et puis après, on achète une robe longue. Et puis, enfin, ça, voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça. Une espèce de, j'y comprends rien, ça ne plaît pas. Je suis allé voir, j'ai pas vu grand-chose non plus, parce que j'étais très, très loin. C'est vraiment quelque chose qui me laisse complètement insensible. J'avoue que je comprends pas pourquoi ça plaît. Bon, mais ça plaît.
Point de vue musical, c'est un ensemble vide. Je veux dire que si on prend les thèmes mélodiques, il n'y a rien. Bon, effectivement, il y a un petit grain de voix dans le genre, je suis très fatigué. Mais je pense qu'il y a beaucoup mieux dans le genre. Au niveau des paroles, alors là, ça c'est, je pense qu'il faut lire Cyran quand même pour pouvoir commenter les textes de David Bowie. C'est quand même, c'est très faible.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
Alors une petite réaction autour de la table. Hein. Des fois, on trouve une pépite, le type qui part tout seul. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait mangé le matin, mais vraisemblablement, il y a eu des gens qui n'aiment pas David Bowie, mais on peut en parler. Arnaud Ducom.
Non, mais là, il est de mauvais poil, c'est pas grave. Mais effectivement, il soulève quelque chose d'intéressant quand il parle des masques et du côté un peu vide de Bowie qui se renouvelle sans cesse. C'est vrai que Bowie, il y a un côté vrai, c'est un truqueur génial. C'est-à-dire que c'est un visionnaire qui sait s'inspirer. On parlait de ses enfants auparavant, mais il les a dévorés aussi, ses enfants. Il a dévoré du côté de Nine Inch Nails, Placebo, récemment Arcade Fire, il les invite, mais il se nourrit d'eux. C'est ça qui fait que Bowie, d'ailleurs, est toujours aussi passionnant. C'est qu'il se... C'est, on dirait maintenant, un digger. C'est quelqu'un qui va chercher, qui s'imprègne de ses influences pour renouveler sa musique. Donc, effectivement, quelque part, le seul point qu'on peut lui donner positif à cette critique, c'est qu'il n'a pas tout à fait tort. Il y a un côté truqueur génial quand même chez Bowie.
Et alors, on j'aimerais qu'on revienne un petit peu dans le temps sur la période Ziggy Stardust, Jean-Baptiste Toussaint, parce que c'est quand même une période d'une richesse absolument incroyable, que ce soit sur scène, mais dans la rue aussi, les années 70. Donc, je vous laisse un petit peu la parole sur...
Oui, vraiment. Moi, quand je pense à David Bowie, déjà, je pense à son florilège de personnages, c'est ce qui est le plus impressionnant aussi chez lui. Et Ziggy Stardust, c'est la période la plus passionnante pour moi chez Bowie. Chez Dewey.
C'est Malcolm.
Chez Bowie, et au début des années 70, il traverse une période assez sombre. Il est à fond dans ce personnage de Ziggy Stardust. Il lui-même ne sait plus vraiment qui il est. Il tombe dans la cocaïne, ça devient très compliqué pour lui. Il se souvient même plus avoir écrit certaines chansons. Et il tombe complètement dans la démence. Il ne sait plus s'il est Ziggy Stardust ou s'il est David Bowie. Faut rappeler qu'à cette période-là, il ne se nourrissait que de poivrons et de lait. Il a failli mourir parce qu'il était beaucoup trop maigre. Il devenait complètement fou. Pour l'anecdote, il mettait son urine au congélateur parce qu'il avait peur que des magiciens lui volent son urine. Donc ça partait vraiment très loin. Il avait eu des propos.
On a tous eu des soirées difficiles.
Oui, forcément. Il avait eu des petits propos ambigus sur le nazisme qu'il avait regretté après par la suite. Donc c'était une période assez compliquée pour lui. Et pour moi, Le changement va s'opérer avec ce Christmas special qu'il va faire avec Bing Crosby, comme s'il avait laissé ce personnage un peu néfaste sur la fin pour un nouveau Bowie un peu plus apaisé par la suite.
Et alors on a évoqué la période berlinoise, mais quelle est cette période berlinoise, Violaine Schütz?
La période berlinoise, c'est la meilleure. Enfin, lui disait Bowie que c'était vraiment son ADN, qu'il a été vraiment en lui pendant cette période-là, donc c'est-à-dire 77, 79. Donc il part, en fait, il est complètement cramé par Los Angeles où il était pendant Station to Station, qui est un album magnifique aussi. Et il veut se renouveler, il est complètement épuisé. À ce moment-là, il tourne à $200 de cocaïne par jour. Il y a eu l'héroïne quand il arrive. Et donc il se dit, où est-ce que je vais aller? Il passe un tout petit peu par Paris. Puis il se retrouve finalement à Berlin parce qu'il adore ce qui se passe là-bas. Donc il y a les groupes Cannes, Kraftwerk, Neu, le krautrock, la ville, et puis il a aussi envie d'être plus être célèbre
là,
parce qu'il a connu
d'enchaîner un nombre de noms que je ne connais absolument pas.
Alors le krautrock, c'est un style musical surtout allemand assez expérimental. En fait, le truc c'est qu'il vient de faire Fame. Qui est un énorme, qui est son plus grand succès pour l'instant, je crois que c'est en 75. Et en fait, là, il a envie d'être un peu anonyme. Donc, il se sépare un peu de ses biens dans un esprit tibétain, parce qu'il a failli être moine tibétain quand il était plus jeune. Et il sépare de ses biens, il lui reste juste des chemises et des jeans, et il se balade dans Berlin comme ça. Et il essaye de se réinventer avec les synthétiseurs, avec Brian Eno. Et c'est passionnant, parce qu'il fait des morceaux, en langue inconnue, comme sur l'eau. Il va utiliser la stratégie de carte, stratégie oblique, qui est une stratégie inventée qui a beaucoup influencé des gens après par Brian Eno. C'est-à-dire quand on est dans une impasse créative, on va tirer une carte pour nous dire quoi faire. Et voilà, il vit avec Iggy Pop dans un appartement à Schönberg, il sort en boîte et il se réinvente totalement musicalement.
Mathieu Thibault.
Oui, par rapport au krautrock, du coup, pour préciser pour les auditeurs que ça intéresserait, c'est effectivement le rock expérimental allemand de l'époque qui joue beaucoup sur la répétition, le minimalisme, et Bowie est particulièrement fan de Kraftwerk, donc qui est un des pionniers en termes d'électro, qui utilise beaucoup de synthétiseurs, parfois même des pads, c'est-à-dire des batteries électroniques construites par le groupe. Et puis il est aussi fan de Cannes et Neu, qui ont un aspect très répétitif. C'est une musique qui est assez difficile à cette époque, et c'est intéressant de voir que Bowie, alors qu'il a eu tout le succès qu'il voulait en Angleterre avec Ziggy Stardust, aux États-Unis avec Fame, en fait, effectivement, comme tu l'as très bien dit, Violaine, il cherche à redevenir anonyme avec son ami Iggy Pop. Il cherche à devenir plus sobre aussi en termes de style de vie. Fini les masques, fini les maquillages. On s'enferme en studio pour expérimenter et on sort les albums les plus difficiles de notre carrière. Et Low et Heroes, les deux albums majeurs de cette période, sont aujourd'hui parmi ses plus influents en termes musicaux. En revanche, en termes de vente, ce sont plutôt des flops.
Arnaud Ducom.
Oui, Low, le premier album de la trilogie berlinoise, tu le disais, Violaine, c'est l'album de la rupture totale, quoi. C'est ça qui est génial. Il balance des plages sur 11 morceaux. T'en as 5 qui sont instrumentaux. T'as des grandes plages synthétiques avec des morceaux de voix. Comme tu disais, des chants, des hallucinations. Et c'est hyper moderne. Le punk n'est pas encore arrivé, qu'il est déjà dans la new wave, dans la cold wave. Et c'est hallucinant.
Et alors, parlons du rapport à la spiritualité de Bowie. Parce qu'on voit que c'est quand même quelqu'un qui a passé sa vie, en fait, à changer de presque de confession, de spiritualité. Un jour, il est bouddhiste. Le lendemain, il est sataniste. Enfin, comment on peut expliquer cette recherche perpétuelle de l'au-delà? Est-ce que c'est uniquement lié aux psychotropes? Quelqu'un peut se lancer? Violaine Schütz?
On en a parlé, mais la mort de son frère, le suicide de son frère en 85 et avant sa maladie, l'a poussé très tôt à se pencher vers un au-delà possible. Il y a eu d'abord, il s'est penché vers le Tibet, vers le bouddhisme. Il a failli être, comme je disais, moine bouddhiste. Et puis quelqu'un lui a dit non, on continue dans la musique, heureusement pour nous. Et puis il a eu aussi des délires mystiques, en fait. Il a lu pas mal Aleister Crowley. Il était vraiment dans le mysticisme, il croyait aux sorcières, il voyait aussi des cadavres tomber des étages. Bon, il y a eu aussi un passage par les surhommes nietzschéens. Il mélangeait un peu tout ça, et en fait c'était aussi une façon, c'était la même chose que quand il s'inventait des personnages. C'était parce qu'il voulait plus que sa vie et que sa morne bourgade, enfin morne quartier gris de Brixton quand il était petit, quoi.
Alors, c'est l'heure du blind test made in Blockbuster. Un blind test, cette fois-ci, consacré aux films et séries dans lequel a joué David Bowie.
En VO, par contre, parce que... c'est en VF, c'est
non, chaud. Non, mais on a trouvé un moyen. On va vous faire écouter des morceaux de la bande-son. Ah. Et à vous de reconnaître dans quel film ou quelle série David Bowie a joué. Premier extrait.
Twin Peaks.
Ah oui.
Mais évidemment. Vous avez vu, on est gentil. Ouais, ah, je pensais qu'il y avait une sorte d'inquiétude au début. Mais non. C'est effectivement Twin Peaks de David Lynch.
À noter qu'il apparaît dans la troisième nouvelle saison de David Lynch avec des rushs tournés à l'époque qui ont été réutilisés dans la nouvelle saison sortie l'année dernière.
Et aussi sous forme de bouilloire, hein, aussi. La quételle.
Ou de théière.
De théière. Ouais,
et bim, anecdote dans ta face.
Son suivant.
Furio.
Non.
Labyrinthe.
Alors, si vous les citez tous, effectivement, il y a peut-être un moment donné, vous allez avoir raison.
Un film de Tony Scott.
Prédateur.
Non.
Ça sonne comme du Bowie années 90, mais du coup.
Oui.
Ouais.
C'est un autre personnage, un artiste.
L'homme qui venait d'ailleurs.
Non.
Ah, c'est pas le Prestige, non.
Non. Basquiat.
Ah oui, il joue Andy Warhol.
Bah voilà.
Son héros.
Voilà. Son suivant.
Ah bah oui.
Là on y est, Furio.
Furio, bonne réponse. Alors là, celui-ci est plus compliqué. Ah, on n'imagine pas forcément. C'est pas Bowie qui vient en premier.
Mais c'est pas Labyrinthe.
Non, parce que Labyrinthe, Bowie vient très vite.
Oui, c'est
là, c'est beaucoup plus difficile.
Panthers.
Non. C'est un petit garçon qui rencontre des êtres minuscules.
Oui, parce qu'il y a des êtres minuscules dans Labyrinthe, mais c'est pas ça.
Jean-Baptiste ?
Non, mais je pensais... Non, ça n'a rien à voir avec son film avec Nicolas Roeg.
Mais c'est un film réalisé par un réalisateur français, souvent décrié.
Ah oui, Luc Besson, c'est oui. Arthur et les Minimoys, non ?
Arthur et les Minimoys, exactement ! Son suivant. On l'a cité plusieurs fois là, depuis le début, donc là, vous avez le droit.
Oui, Prédateur.
Non,
Labyrinthe, non. C'est bien fini à Paris.
Labyrinthe.
Mais c'est notre préféré.
Voilà. Labyrinthe, vous voulez qu'il rentre. Hein.
Labyrinthe, cette fois-ci, c'est Labyrinthe. Derrière. Un film incroyable, avec des acteurs que j'aime énormément.
Ah, ça nous aide.
Prédateur.
Dont l'un d'entre eux a joué Batman. Là, j'ai tout dit, en fait.
Oui, bah, c'est le Prestige, ça.
Oui,
de
Prestige.
Nolan. Ouais.
Voilà. Eh bien, écoutez, on a gagné une chanson. Et quoi de mieux pour boucler cette saison que Life on Mars de David Bowie, bien entendu. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. Her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance.
Arnaud Ducom, j'aimerais maintenant qu'on parle du dernier album de Bowie, Black Star, et cette disparition qu'il a su mettre en scène.
Bah oui, c'est Tony Visconti, son producteur, qui, en faisant un éloge à David quelques jours après sa mort, a dit « David Bowie est mort libre ». Et on peut dire ça, c'est vrai que, bon, on le chiale encore, on est d'accord, mais il aura réussi ça, il aura réussi sa sortie, il aura réussi sa mort. C'est quelque part le premier artiste qui, de sa génération, qui a réussi à vivre au-delà de son vivant avec cet album.
Ah, Jésus s'en est sorti pas mal aussi.
Jésus était pas mal dans le genre aussi. Mais on parle d'un musicien, et effectivement, il a un musicien effectivement qui s'ouvre. On l'a vu, les critiques disaient qu'il est un musicien multifacette, qui se cache derrière des masques. Ben là, pas du tout. C'est vraiment un album vraiment direct, franc, pudique, mais franc, qui aborde vraiment sa mort. Et c'est en ça que c'est bouleversant. Lazarus est tiré de l'évangile selon Saint Jean. Il y a une question d'immortalité. Mais là, vraiment, on est dans un album, c'est plus humain de David.
Et ce qui est fascinant comme dernier album, c'est que Black Star a cela qu'il est à la fois une synthèse en termes de thèmes, parce qu'il y a le questionnement sur l'au-delà, sur l'occulte qu'on avait déjà eu dans Station to Station, et en même temps musicalement c'est un nouveau Bowie. Il contacte un nouveau jeune groupe de jazz, alors jazz ouvert parce que c'est du jazz moderne américain, mais n'empêche que c'est un groupe de jazz avec lequel il va mélanger des rythmes plus électroniques, et on a des chansons du coup qui évoquent à la fois du free jazz et du Radiohead. Et c'était une porte ouverte vers une nouvelle carrière quelque part, et partir sur une synthèse aussi avant-gardiste, c'est étonnant.
Merci Mathieu Thibault, merci Violaine Schutz, merci Arnaud Ducom, merci Jean-Baptiste Toussaint d'avoir évoqué avec moi David Bowie sur France Inter.
Merci.
Donc c'est
merci.
La fin de merci. Cette émission, et c'est la fin de cette émission pour cette année. Hein. Vous pouvez me retrouver lundi matin. Mais attendez, vous pouvez me retrouver lundi matin dans mon lit ou cet été dans un jardin, hein, un verre de vin à la main parce que je pars en vacances. Lundi, vous allez retrouver mon camarade Daniel Morin pour les best-of de la bande originale. Et moi, je vous retrouve à partir du 27 août accompagné de toute l'équipe de la bande originale. Alors, je vous dis encore une fois merci à tous et à toutes. Merci pour cette émission. Je fais une bonne vacance. Et pour la dernière fois, passation d'antenne avec le débat de midi. Bonjour Dorothée Barba.
Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez Mon bel oranger? C'est un roman brésilien de José Mauro de Vasconcelos. Moi, je l'ai lu à l'âge de 12 ans et j'ai pleuré à chaudes larmes. Donc, je peux dire que ce livre a changé ma vie, même si je lisais aujourd'hui, je pense que je serais un peu déçue. On s'interroge aujourd'hui dans le débat de midi sur le pouvoir de la lecture. Peut-elle changer la vie? Peut-elle nous rendre plus heureux éventuellement? J'attends les réactions des auditeurs sur franceinter.fr, rubrique le débat de midi. Et bonnes vacances Fred.
Merci Dorothée. Vous écoutez France Inter, il est midi.
Nobody knows the trouble I've seen.
Les informations, Fiona Moganam.
L'alerte orange aux orages et à la canicule s'étend désormais à 25 départements. Tout le nord de la France, le nord de la Normandie, l'Île-de-France, une partie du centre et plusieurs départements de la Côte d'Or à l'Ardèche sont concernés. On attend encore jusqu'à 38 degrés cet après-midi. En fin de journée, des orages parfois violents pourraient éclater dans le centre l'Île-de-France, le nord de la Normandie et les Hauts-de-France. Ces fortes chaleurs qui compliquent encore plus la situation des personnes qui vivent à la rue. Malik Berkani s'occupe de la lutte contre les exclusions à la Croix-Rouge.
Il faut rappeler que en cette période, la chaleur dégrade fortement la situation sanitaire des personnes à la rue. La déshydratation, qui peut être aggravée en cas de consommation d'alcool, médicaments, mais aussi de l'hyperthermie, hein, qui est une élévation anormale de la température du corps. Mais je tiens quand même à rappeler que la première difficulté des personnes à la rue n'est pas la chaleur, mais le fait même d'être à la rue. L'été est aussi